Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Donc débutons par le commencement. Après le succès de Corpus Christi et de l'origine du christianisme sur Arte, une série donc de Jérôme Prieur et Gérard Mordilla, deux réalisateurs de toute cette série, après le succès de ces trois séries et puis des trois livres qui les accompagnent, donc Jésus contre Jésus 1999, Jésus après Jésus 2004 et Jésus sans Jésus, donc nous avons assisté à l'automne 2008 à la troisième donc série, l'Apocalypse. Série qui était plutôt ambitieuse, plutôt bien faite, avec 80 invités provenant de 8 pays différents, 12 heures d'émission, et puis toujours centrée sur cette question de Jésus et des premiers temps du christianisme. Donc, d'une certaine façon, tout pour plaire et tout pour vous plaire. Jean-Marie Salamito, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes normalien, spécialiste de ces questions et surtout professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne, chaire qui était occupée préalablement par Henri-Irénée Maroux. Donc, normalement, toutes ces émissions et tout ce qui a été fait très susceptible de sortir un tout petit peu cette matière austère qui est celle des premiers siècles, enfin de l'histoire des premiers siècles du christianisme, de, si ce n'est l'anonymat, du moins du confinement entre spécialistes dans lequel souvent elle est. Mais il semble qu'effectivement vous ayez commencé à réfléchir, à visionner donc avant tout le monde ces différentes émissions, et d'une certaine façon, peut-on dire, une certaine mouche vous a piqué, qui fait que vous considérez Jérôme Prieur et Gérard Mordilla comme, dites-vous, des chevaliers de l'antichristianisme qui, et c'est là une faute selon vous plus lourde, qui se servent de l'histoire pour la déformer et pour promouvoir leurs idées. Donc il faut bien distinguer, et vous le distinguez bien dans vos différentes interventions, deux choses. D'une part, l'hostilité de Prieur et Mordilla à l'égard du christianisme, qui est en soi une opinion. Et il faut rappeler quand même à ce titre ce qu'ont dit nos amis Mordilla et Prieur à ce sujet, déclarant clairement à l'égard de l'Église qu'elle est, selon eux, le plus grand organisme de coercition que la Terre ait jamais connu. Donc vous distinguez cela de la grille de lecture qui est la leur, de leur parti pris et surtout de l'effet de déformation qu'ils ont opéré à l'égard d'une lecture historique de ces premiers siècles. Et là, donc, vous acceptez, dites-vous, dans le petit livre que vous leur consacrez, donc « Les chevaliers de l'Apocalypse », Jean-Marie Salamito, donc vous-même, réponse à M. Prieur et Mordilla, publié au début de l'année 2009 chez Le Tellieu et Desclée de Brouwer. Donc, vous dites dans ce livre que vous relevez d'une certaine façon le gant et acceptez le combat. Je vous cite, « J'accepte le combat parce que je suis un historien, un universitaire. En dépit de ce que pensent certains, être professeur dans une université publique ne revient pas à vivre en rêveur subventionné, ni en égoïste omnubilé par ses chères études. C'est répondre à une demande sociale, une demande de formation, d'intelligence, de savoir frais et solide. » Donc, vous avez accepté ce combat. Et ce combat, effectivement, s'est manifesté de différentes manières. Premier épisode. Donc vous avez dans Le Monde de la Bible fait un article au moment même de la diffusion de cette série. Le 6 novembre 2008, il y a eu un débat public dont certains extraits sont diffusés sur le site Arte et qui sont effectivement d'une certaine, pour ne pas dire d'une évidente violence. Et puis donc ce petit livre qui reprend votre analyse sur cette série. Alors, quel est donc ce parti pris, enfin, que vous dénoncez pour partie ou que vous analysez pour partie, hein, voilà. Alors, ce parti pris a été mis en évidence aussi par Daniel Marguerat, qui est historien, comme vous, de la même époque, et qui a été interrogé tout au long des trois séries de Mordilla et Prieur. Et il dit, c'est M. Marguerat qui parle, pardon, il dit « Le spectateur doit savoir qu'il, donc Mordilla et Prieur, défendent une lecture des événements. Cette thèse consiste à dire que le christianisme, à l'origine mouvement juif marginal et opprimé, s'est tragiquement mué en mouvement intolérant et persécuteur par son alliance avec le pouvoir politique. Il se serait alors dénaturé. » Voilà. Donc cette thèse de l'alliance politique au cours de Constantin et de la dénaturation est relativement assez fréquente, disons, dans la vulgate, enfin dans l'intelligentsia actuelle. Donc, je vous ai demandé, vous avez gentiment accepté de venir nous voir, pour non pas retomber ou réanalyser les différents détails de cette polémique ou les différents détails des remarques presque méthodologiques que vous faites, bien que nous y viendrons, mais je voulais voir avec vous de quelle manière vous répondez aux thèses sous-jacentes de Mordillat et Prieur. Alors, première question, avec, disons, les mois qui sont passés, parce que ça fait presque un an que vous avez commencé à regarder cette série, à vous intéresser à cette question. Pourquoi, selon vous, y a-t-il eu un tel déchaînement de violence, un tel climat d'hostilité de leur part à votre égard? Et je renvoie donc nos auditeurs à ces bouts de films, enfin, qui ne reprennent que des éléments et pas tout du débat que vous avez eu le 6 novembre avec eux, où effectivement, par exemple, ils se sont crus suffisamment offensés pour, avant même de débuter le débat, de lire in extenso un droit de réponse qui était à la fois vigoureux, presque avec des attaques ad hominem. Enfin, et puis, je renvoie donc aussi nos auditeurs à l'émission d'Alain Finkielkraut, entre vous et puis Jérôme Prieur, qui vous avez traité de curé déguisé en universitaire. Donc, première question, avec le recul qui est maintenant le vôtre, pourquoi une telle violence, un tel déchaînement de passion, une telle hostilité de leur part?
Je crois que, d'abord, le déchaînement de passion tient au sujet lui-même. C'est-à-dire que les sujets religieux, les sujets qui touchent à la conception de la vie et du monde, et en particulier au rapport entre la laïcité, l'histoire, la science, et d'un autre côté la religion, ces sujets-là, dans la tradition intellectuelle française et dans la vie publique française, sont des sujets, comme nous le savons tous, extrêmement délicats qui, d'une certaine façon, suscitent des réactions, pour ainsi dire, électriques. Nous sommes très facilement touchés, très facilement électrisés par ces questions-là. Un second aspect, me semble-t-il, c'est aussi l'attitude propre de Jérôme Prieur et de Gérard Mordillat qui, fort d'un succès de plusieurs années, appuyé également sur un travail très considérable, ont du mal à supporter la critique alors qu'ils ont été tant de fois encensés depuis Corpus Christi et alors qu'ils disposent de bons appuis dans un certain nombre de médias. Et là, je dirais que, de toute évidence, c'est une réaction un peu de star ou de diva face à la critique. Prenons un point très précis. Le droit de réponse que vous évoquiez, qui a été lu publiquement au soir du 6 novembre quand nous étions ensemble au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour débattre sur leur émission, ce droit de réponse était une manière d'étouffer le débat avant qu'il n'eût commencé, alors qu'il me paraît normal que des créateurs, des auteurs, des gens qui publient, qui ont une production artistique ou intellectuelle, supportent qu'on écrive des articles sur eux. Un auteur de livres ou de films ne va pas passer son temps à écrire des droits de réponse aux différents critiques littéraires ou cinématographiques qui auront pu formuler quelques réserves sur ses productions. Il me semble qu'il y a là une liberté du débat intellectuel qu'il faudrait prendre avec une certaine sérénité. Je viens de dire débat intellectuel, je tiens beaucoup à cette expression. Nous sommes dans un débat d'idées. Et quand vous parlez des présupposés, des thèses de Gérard Mordillat et de Jérôme Prieur, je dis bien clairement, depuis le début, que ce sont des thèses parfaitement explicites, parfaitement repérables dans leur production, soit dans la voix off de l'émission, soit dans le livre « Jésus sans Jésus » qui accompagne l'émission, et que donc je ne suis pas du tout amené à leur faire, si peu que ce soit, un procès d'intention, parce que leurs déclarations sont parfaitement clair, il y a là une objectivité et nous sommes donc bien dans un véritable débat d'idées. Il y a des positions qui sont prises et ces positions-là, parfaitement claires, je le répète, dans la voix off de l'émission ou dans le livre qui accompagne l'émission, ces positions-là ne sont pas des positions historiques. Elles sont des positions qui relèvent d'une tradition, d'ailleurs très française, de polémique contre le christianisme, en s'appuyant sur une démarche qui est extrêmement simple et qui se comprend fort bien, séparer Jésus du christianisme qu'il a suivi. Et cela se comprend fort bien parce que, bien évidemment, pour tout le monde, il y a une distance énorme entre le rayonnement ou l'éclat de la personnalité de Jésus de Nazareth et puis toutes les faiblesses que l'on peut repérer au cours des siècles dans l'Église ou les Églises qui se sont réclamées de lui. Autrement dit, on exploite une sorte de tendance spontanée à opposer Jésus et l'Église ou Jésus et les Églises, mais ce qui me paraît aller très loin, c'est que pour mieux scinder Jésus et le christianisme, on remonte à Jésus lui-même en donnant de ce Jésus une image qui est historiquement injustifiable. Autrement dit, pour conclure là-dessus, si effectivement il y a, comme l'a dit Daniel Marguerat, une thèse dans ces émissions, et il y a bien une thèse dans ce livre, si effectivement nous sommes en face d'une thèse, cette thèse n'est pas si banale parce qu'elle fait commencer la trahison de Jésus, au fond, aux origines chrétiennes et pas à l'empereur Constantin qui légalise le christianisme en l'an 313. Donc la thèse Mordia et Prieur, je dirais, est particulièrement radicale.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que, d'une certaine façon, leur travail à eux, qui est salutaire d'un certain point de vue parce qu'il permet d'amener à la connaissance du plus grand nombre un certain nombre d'experts qui, effectivement, parlent dans les séries, que je distingue effectivement des livres. Donc, en soi, il y a un effet de vulgarisation qui est plutôt dans l'intention positive. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a quand même aussi un mouvement de fond que je relierais pour partie au code da Vinci, par exemple, qui consiste à dire il y a une captation qui est faite de l'héritage de Jésus par soit l'Église, soit par des universitaires qui ne donnent pas, qui ne mettent pas en évidence, qui ne communiquent pas suffisamment des débats internes. Et il faut donc le recours, le secours de journalistes, de réalisateurs extérieurs qui viennent éclairer, porter à la connaissance de tout le monde ces thèses et ces débats qui sont cantonnés ou limités à des spécialistes.
Je dirais que ça peut se discuter parce que déjà le débat est tout de même, en ce qui concerne le christianisme, les origines du christianisme ou les premiers siècles du christianisme, est quand même présent dans beaucoup de livres qui s'adressent au public cultivé. On publie beaucoup dans ce domaine et donc la vulgarisation existe. Elle est dans un certain nombre de cas de très grande qualité. Donc je ne vois pas qu'il y ait un manque dramatique de communication de la part des spécialistes des origines chrétiennes, de la part des spécialistes de la Bible. Il faudrait d'ailleurs, à côté des livres, mentionner toutes les sessions, toutes les conférences, tous les séminaires qui peuvent se faire ça et là pour de très vastes publics, pour des tas de gens qui manifestent leur curiosité intellectuelle, alors que bien évidemment, ils sont très loin d'être des spécialistes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que porter l'histoire du christianisme antique dans des émissions de très longue durée, comme ça a été fait dès Corpus Christi, à une heure de relativement grande écoute et avec ce nombre-là de spécialistes, hein, il y en a plusieurs dizaines au total, effectivement, ça, c'est quelque chose de très original. Donc, je reconnais tout à fait qu'il y a un événement en ces émissions-là, que c'est véritablement un événement médiatique et que ça aurait pu, je dis bien ça aurait pu, j'emploie l'irréel, ça aurait pu être une prouesse tout à fait éminente de la télévision culturelle. Le problème est que pour faire de la télévision culturelle, il faut non seulement le talent personnel de Mordia et Prieur, leur capacité à interroger les gens, leur capacité à les mettre en image, mais il faudrait aussi, ce qui leur manque malheureusement, une certaine objectivité ou en d'autres termes, plus d'honnêteté intellectuelle. Et c'est là que le bât blesse, c'est que ce qui ressemble à une extraordinaire prouesse de télévision culturelle, à une extraordinaire ambition télévisuelle. En réalité, si l'on prend la thèse, et spécialement pour la série L'Apocalypse de décembre dernier, si l'on prend la thèse, c'est au fond plutôt une émission de propagande dans laquelle on peut picorer un certain nombre de discours de spécialistes qui sont intéressants, mais dont le fond, dont la ligne directrice, dont le fil rouge, le fil conducteur sont tout à fait dans l'ordre de la propagande antichrétienne. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très étonnant. Effectivement, j'avais employé cet adjectif étonnant. Je disais dans mon article du Monde de la Bible au début novembre 2008, étonnante réalisation. Oui, étonnante réalisation parce que les morceaux sont intéressants. Il y a des spécialistes qui s'expriment et cela est très riche. Et puis, à côté, il y a une voix off, il y a un fil conducteur qui relève de la propagande antichrétienne en tout ce qu'elle a de mauvaise foi et de propension à caricaturer la réalité historique. C'est donc là un paradoxe, au fond. Nous avons quelque chose qui aurait pu être extraordinaire, un extraordinaire succès de télévision culturelle, et au fond, on est déçu, on reste déçu parce que l'objectivité n'est pas respectée, parce que le pluralisme n'est pas respecté, parce qu'au fond, le pari n'est pas tenu jusqu'au bout.
Et alors vous signalez, et je voudrais conclure notre première partie d'entretien là-dessus, vous signalez donc dans votre livre un certain nombre d'erreurs de méthode tout au long de leur entreprise. Alors je les cite, il y en a 7. 1, une attitude contestable face aux sources. 2, une absence de sérénité. 3, présenter des hypothèses comme des certitudes. 4, un anachronisme volontaire, et en particulier sur la question des martyrs et le parallèle qui est fait entre les martyrs antiques et puis les attentats du 11 septembre. 5, la fusion des documents. 6, le refus du contexte, de la contextualisation. 7, l'histoire-fiction, c'est-à-dire l'idée de raconter effectivement ce qui aurait pu se passer si effectivement le Christ était revenu sur Terre, en particulier au 5e siècle. Voilà. Donc tout ça, ça fait... ces éléments-là sont développés dans votre livre, et d'une certaine façon, c'est toutes ces erreurs de méthode qui ne sont pas simplement des erreurs de méthode, dites-vous, mais aussi des erreurs de méthode pour mettre en avant, pour promouvoir un certain nombre de thèses que nous allons examiner après.
Oui, et là, c'est un problème de méthode, vous avez raison de le souligner. Pour moi, c'est très important, parce que précisément, il y a quelques instants, nous parlions de vulgarisation. Or, la vulgarisation ne consiste pas simplement à offrir au grand public des résultats scientifiques, des résumés de nos conclusions, mais consiste aussi à apprendre au grand public comment les spécialistes travaillent, et donc comment le public lui-même peut s'appliquer à réfléchir sur un certain nombre d'ouvrages et donner cette formation, je dirais, méthodologique est extrêmement important. Il s'agit de partager non pas seulement les résultats, mais aussi la méthode. Et ce partage de la méthode, il n'est évidemment pas du tout réalisé lorsque des cinéastes pratiquent une anti-méthode historique. C'est là qu'il y a un problème qui est bien au-delà de la question de savoir si dans la vulgarisation, de temps en temps, on simplifie un peu trop telle ou telle donnée complexe. Il y a un problème de méthode qui est donc au fondement et qui fait que la thèse de Mordia et Prieur est viciée en sa racine parce qu'elle repose plus sur une anti-méthode que sur une méthode.
Très bien, nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après. Voilà, donc nous reprenons notre deuxième partie d'entretien avec Jean-Marie Salemito autour de son livre « Les chevaliers de l'Apocalypse » qui lui-même, enfin ce livre, était une réponse donc à la série « Apocalypse » de Prieur et Mordia. Et maintenant, je voudrais que nous rentrions dans les thèses qui sont effectivement explicites, plus ou moins explicites, en filigrane, pas très claires, plus claires sans doute dans les livres que dans la série télévisée et si vous en êtes d'accord, qu'on puisse les examiner une par une, ces thèses, pour que vous nous disiez ce qu'il faut en penser ou ce que vous en pensez. Alors, première thèse, Jésus donc serait avant tout un chef politique qui espérait fonder, disons en quelque sorte, le front de libération de la Judée, enfin, pour libérer le peuple juif de l'oppression romaine. Il était donc, nous disent Mordia et Prieur, anti-romain et voulait restaurer le royaume d'Israël. Alors, peut-on considérer, doit-on considérer que Jésus-Christ est, disons, un Che Guevara avant l'heure ? Et Que fait-on, que peut-on faire de, disons, l'aspect religieux, spirituel, messianique, reconnu par les chrétiens de Jésus ?
Alors l'aspect messianique, je rebondis immédiatement sur le dernier terme que vous avez employé, l'aspect messianique, hein, le fait de considérer Jésus comme Messie, eh bien ça effectivement c'est le message chrétien, hein, puisque précisément Christ, c'est Christos, c'est la traduction grecque de Messie, donc Jésus-Christ veut dire Jésus-Messie. Le considérer comme Messie, c'est un élément de la tradition chrétienne, mais on peut dire que pour Mordiaï Prieur, le messianisme est un messianisme purement politique, donc de libération de la Judée et évidemment consiste à chasser les Romains de la Terre Sainte. Or, c'est là que nous sommes face à une thèse qui est extraordinairement réductrice. Entendons-nous bien, je ne prétendrai pas donner moi-même ici une idée générale qu'il faudrait penser sur Jésus de Nazareth. Je ne suis pas là pour défendre, je dirais, une opinion personnelle, même si elle était scientifiquement étayée. J'essaie de me caler sur ce qui est le plus vraisemblable et le plus admissible par la très grande majorité des spécialistes. Or, il est évident que la thèse de Jésus comme libérateur politique est extrêmement faible, qu'elle ne peut pas trouver un fondement suffisant dans nos sources. Pour la bonne raison que même Flavius Josèphe, cet historien juif qui, sous l'Empire romain, à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, écrit un témoignage sur Jésus, témoignage qui est en partie authentique, même s'il contient sans doute, très certainement, des interpolations chrétiennes. Même Flavius Josèphe nous présente bien Jésus comme un maître religieux et absolument pas comme un personnage qui avait une vocation politique. Et il ne se serait pas gêné pour le dire si ça avait été le cas. Et puis, si nous prenons les évangiles, qui sont tout de même, il faut bien le rappeler, nos sources principales et de très loin sur Jésus, il faut vraiment tordre les textes avec une mauvaise foi extrêmement virulente pour parvenir à en tirer un Jésus purement politique. Alors je dis simplement ceci, à l'heure actuelle, n'importe quel connaisseur de Jésus ou de l'époque de Jésus ou du christianisme ou des origines du christianisme ou du judaïsme du début de l'ère chrétienne est amené à voir en Jésus un réformateur du judaïsme, un sage juif, un prophète juif, un rabbi, un maître juif entouré de ses disciples comme le sont les rabbins de la même époque ou des époques postérieures. Et donc, au minimum, on concevra Jésus comme cette personnalité religieuse apportant un enseignement nouveau à l'intérieur même de la tradition juive et on ne le considérera pas comme une personnalité politique. Alors vous voyez bien qu'en disant cela, je ne me prononce pas du tout sur la messianité de Jésus ou sur la signification que peut avoir Jésus pour les confessions chrétiennes. Je m'en tiens à ce que j'appelle un noyau dur de connaissances historiques sur lesquelles à peu près tout le monde peut être d'accord. Et vous voyez bien que face à cette vision très majoritaire d'un Jésus bien évidemment juif, bien évidemment situé dans la tradition juive, mais apportant un enseignement assez personnel et novateur qui a séduit un certain nombre de juifs, en m'en tenant à cette thèse-là, je suis très loin de la fiction, de l'espèce de roman sur un Jésus zélote, sur un Jésus libérateur politique de la Judée.
Peut-on ignorer toutes les tendances, tous les mouvements qui, à l'époque de Jésus, traversaient le peuple juif et, d'une certaine façon, souhaitaient un élément de libération. Donc, quelle était la position de Jésus, selon les textes, sur cet élément de libération, donc terre occupée, s'il en est. Et peut-on dire qu'il y a quand même un aspect politique dans le message des évangiles et le message tel qu'il a été transmis par les évangiles ?
Alors, l'aspect politique, on pourrait dire qu'il est toujours présent dans un mouvement religieux, d'une certaine façon, hein, parce qu'à la limite, tout est politique. Donc, il est évident que la personne de Jésus ne peut pas échapper aux significations politiques de son époque. Et en particulier, il est bien clair à un certain nombre de passages du Nouveau Testament que Jésus a pu aussi être compris comme un libérateur politique et que libérateur à la fois religieux et politique, c'était ce qu'on pouvait attendre de lui, les deux étant liés. On le voit bien au début des Actes des Apôtres, quand des disciples demandent à Jésus, juste avant la scène de l'Ascension, « Quand vas-tu rétablir la royauté en Israël ?» Ce qui veut bien dire que cette vision politique du Messie, qui fait partie de la tradition d'Israël, bien évidemment, était présente dans l'esprit des apôtres à un certain moment. Cela étant, on voit bien à d'autres passages du Nouveau Testament que Jésus refuse la responsabilité politique, refuse de porter un message politique, qu'il n'est pas anti-romain, qu'il ne refuse pas de soigner des Romains, qu'il ne refuse pas que l'on paie l'impôt romain. Autrement dit, on voit très bien que ce n'est pas une personnalité qui a pour objectif principal de lancer la révolte contre les Romains. Alors, on peut ajouter à cela quelque chose de très simple, c'est que visiblement, Jésus a bénéficié de son vivant, selon toute vraisemblance, d'une extraordinaire réputation de thaumaturge. Je veux dire par là que les récits de miracles ou la mention des miracles dans les évangiles sont probablement des traditions qui remontent très loin au vivant de Jésus lui-même. Cela signifie que s'il disposait effectivement de cette réputation de thaumaturge, Jésus était dans une position exceptionnellement forte, extraordinairement forte, pour susciter l'enthousiasme des foules juives et lancer un mouvement de révolte contre Rome. Or, il ne l'a pas fait et nous n'avons aucune trace de sa prétendue volonté de le faire. J'ajoute un détail que Mordillat et Prieur eux-mêmes ont l'habitude de citer, mais ils n'en tirent pas les conséquences. On n'a pas inquiété les disciples de Jésus alors même qu'on avait crucifié leur maître. Ce qui semble dire que du côté de Pilate, du côté des autorités romaines d'occupation, il n'y avait pas d'inquiétude très pressante quant au danger que pouvaient représenter les disciples de Jésus. Alors ça nous fait tout un faisceau de preuves pour écarter d'une manière quand même très sûre l'idée que Jésus était un libérateur politique.
D'accord. Donc je voudrais en venir à un deuxième thème fort. Donc Jésus, on est d'accord là-dessus, bien que ça n'a pas été toujours évident dans la tradition chrétienne, donc Jésus était juif. Et en même temps, il a rompu avec le judaïsme, à la fois par sa personne et à la fois par son ouverture, qui se fera ultérieurement, aux païens. Alors, il y a donc une filiation qui est à la fois fidèle et infidèle. Bon, Mordillat et Prieur, eux, considèrent donc les chrétiens comme anti-juifs, sinon, je les cite, antisémites. Antisémites, c'est-à-dire qu'ils annoncent, par avance, d'une certaine façon, l'antisémitisme moderne. Pour eux, dites-vous, je vous cite, page 112 de votre livre, « Le christianisme est la source unique et le vecteur principal de tout ce que le XXe siècle a connu en matière d'antisémitisme. » Alors, pourquoi, selon vous, Mordillat et Prieur, sur cette filiation, sur cette annonce, enfin sur cet anti-judaïsme qui pourrait devenir, selon eux, ou qui est devenu, selon eux, un antisémitisme, pourquoi, selon vous, Mordillat et Prieur ont tort?
Ah ben, ils ont tort sur beaucoup de points et de façon, je dirais, à peu près systématique. On pourrait, si vous voulez, commencer par une simple distinction, parce que l'histoire est une science des différences et déjà des différences à travers le temps. Donc la première distinction à poser serait la distinction entre anti-judaïsme et antisémitisme. Ensuite, de quoi il faudrait se demander s'il n'y a pas différentes formes d'anti-judaïsme, ce qu'on appelle anti-judaïsme, et ce que c'est, au fond, que l'antisémitisme. Alors, la distinction, si vous voulez, ce serait déjà de se rendre compte qu'il y a dans la tradition des pays chrétiens une hostilité aux juifs dans beaucoup de cas, dans beaucoup de masses chrétiennes qui remontent à des polémiques qui sont de l'antiquité chrétienne et qui visaient notamment à l'époque, j'entends aux deux premiers siècles, à fixer une certaine identité chrétienne et à la légitimer face à la tradition juive. Il y avait le problème, si vous voulez, pour une religion fille, de se justifier par rapport à la religion mère qu'elle abandonnait.
Donc un élément de différenciation.
Un élément de différenciation et de différenciation par la controverse et par une controverse plus ou moins violente. Donc il faudrait bien voir que cette polémique des premiers siècles chrétiens face au judaïsme se situe dans un débat intellectuel et non pas comme une forme de répression ou de coercition vis-à-vis du judaïsme. Après, à partir du Moyen Âge, à partir du moment où l'on est dans une société à écrasante majorité chrétienne, il y a un phénomène que l'on connaît bien et qui s'explique assez bien, c'est la manière dont une majorité peut regarder de travers et opprimer, en allant jusqu'à la violence, une certaine minorité, en l'occurrence la minorité juive. Donc nous avons là effectivement toute une tradition de malentendus, d'incompréhension, voire de haine à l'égard de la tradition juive. En même temps, il existe, et depuis l'Antiquité, des affirmations chrétiennes de la dignité de la tradition juive, de l'enracinement dans l'Ancien Testament, et il y a l'idée originelle, puisqu'elle remonte à l'Épître aux Romains de Paul, que les promesses de Dieu, la bénédiction de Dieu sur Israël, cela ne change pas, les promesses de Dieu sont durables, elles sont éternelles. Alors, à côté de ces éléments qui sont proprement chrétiens, c'est-à-dire d'abord comment se situer face au judaïsme quand on est au tout début de sa propre religion, et puis ensuite comment se situer face au judaïsme quand on est une majorité écrasante et pas toujours, loin de là, bienveillante. À côté de ce problème qui est proprement religieux, et il faudrait distinguer des degrés d'anti-judaïsme, parce que le fait de polémiquer avec les juifs ne signifie pas qu'on est anti-juif. Ça signifie que l'on essaie de se justifier en tant que chrétien face aux juifs, ça ne veut pas dire qu'on a de la haine pour les juifs, ça ne veut pas du tout dire qu'on les méprise. Les pères de l'Église, quand ils polémiquent avec les juifs, ne sont pas toujours méprisants, et on pourrait y revenir en particulier avec l'exemple extrêmement éclairant de saint Augustin. Donc il y a ce problème-là qui est d'avoir raison. Je me rappelle autrefois, à propos d'une controverse entre juifs et chrétiens, Pierre Vidal-Naquet disait qu'il trouvait tout à fait normal que les chrétiens réclament d'avoir, sur le plan religieux, raison face aux juifs. Comme il est normal, peut-on ajouter, que les juifs estiment avoir raison par rapport aux chrétiens. Le fait de croire qu'on est dans la vérité ne signifie pas que l'on méprise ou que l'on a envie de détruire celui qui est à côté et qui a d'autres choix. Alors ça, c'est l'aspect proprement religieux. Maintenant, il y a tout un aspect beaucoup plus moderne qui est, je dirais, l'héritage à la fois des Lumières et du XIXe siècle, qui est une attitude à l'égard du judaïsme, détachée, une attitude détachée de la tradition chrétienne, une attitude qui ne pose plus le problème en termes religieux, mais qui le pose en termes politiques et puis progressivement en termes raciaux. Alors déjà, là, il y a une énorme distinction à faire, c'est que l'antisémitisme tel qu'il apparaît, et le mot lui-même, antisémitisme, est une création de Drummond dans les années 1890, le mot est une création française, et ce mot nous met en face d'une question juive, comme on a dit pendant très longtemps depuis le 19e siècle, qui est le problème de savoir ce que les États-nations, avec leur conscience d'eux-mêmes, avec leur revendication d'identité, avec leur patriotisme ou leur nationalisme, ce qu'ils font, ces États, face aux juifs, face aux minorités juives. Ce qui est un autre problème d'attitude face à la minorité, qui n'est plus conçu en termes religieux, qui est conçu en termes nationaux, voire en termes raciaux. Et il faudrait absolument tenir compte de ce que s'est développée une attitude face aux juifs qui est détachée de la référence chrétienne et qui n'est pas nécessairement une attitude plus bienveillante que celle de la polémique chrétienne des siècles précédents. Et il faudrait aussi faire attention à l'idée que dans des formes plus récentes, plus modernes, d'hostilité au judaïsme ou aux juifs, l'idée n'est pas qu'on a raison contre les juifs, l'idée c'est que les juifs gênent, qu'ils sont une identité gênante et qu'au fond, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, ils perdent leur identité. Chose qui n'est pas du tout la revendication de la tradition chrétienne de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Nous avons donc deux phénomènes qui me paraissent tout à fait distincts historiquement, à la fois en chronologie et en nature. Alors maintenant, il y a un autre problème qui est la liaison de ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à une époque récente, qu'un antisémitisme racial se soit développé et qu'il ait pu profiter de l'antijudaïsme chrétien, ça, c'est une autre question, effectivement. Mais si vous voulez, on pourrait même remonter au vieux livre de Jules Isaac, Genèse de l'antisémitisme. Dès l'introduction, Jules Isaac distingue bien un antijudaïsme de l'Antiquité et du Moyen-Âge et un antisémitisme moderne qui est différent. Simplement, il remarque que s'il y avait eu moins d'antijudaïsme chrétien, il y aurait eu plus de capacité chez les chrétiens à résister à l'antisémitisme des époques les plus récentes. Mmh. Alors je voudrais ajouter, si vous permettez, un dernier point. J'ai essayé donc d'inviter à distinguer antijudaïsme et antisémitisme, à distinguer les phénomènes religieux et les phénomènes qui relèvent du nationalisme et du racisme. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a un problème qui est le problème de notre propre situation historique. Nous sommes des gens d'après la Shoah. Et cela veut dire que historiquement, d'une certaine façon, nous avons touché le fond. C'est-à-dire que l'horreur la plus profonde, la négation la plus totale, la plus cohérente, la plus impitoyable, la plus folle de l'humanité du peuple juif, nous l'avons vue à l'œuvre. Autrement dit, tout ce qui, dans les époques antérieures, peut ressembler à une attitude d'hostilité ou de critique à l'égard des Juifs, tout cela est éclairé rétrospectivement par cette lumière sombre, si j'ose dire, par cette lumière terrible de la Shoah. Alors, c'est bien que ça nous rende lucides. Mais d'un autre côté, si nous voulons comprendre ce qui s'est passé avec le génocide voulu par les nazis, il faut analyser tout ce qui a précédé la Shoah, mais ne pas nous imaginer qu'une attitude prise au IIe siècle de l'ère chrétienne par un auteur qui n'a absolument pas été lu par les nazis a pu avoir de l'influence sur la Shoah. Il faut faire très attention en histoire de manière générale aux causalités qui remontent très loin. Et c'est là qu'il y a une tactique de la part de Mordillat et Prieur, qui est de diffamer, de déprécier le christianisme en faisant le responsable de la Shoah, ce qui est historiquement une position au minimum critiquable.
Nous allons observer une deuxième page musicale et nous reprenons juste après. Nous reprenons donc notre entretien avec Jean-Marie Salemito autour de son livre « Les chevaliers de l'Apocalypse ». Et donc nous continuons cette question de la filiation ou pas entre antijudaïsme et antisémitisme. Vous nous avez montré juste avant effectivement qu'il fallait à la fois ne pas faire d'anachronisme et à la fois bien distinguer ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre du politique. Vous avez cité Jules Isaac, on pourrait citer aussi Hannah Arendt qui montre bien effectivement le caractère politique de l'antisémitisme moderne qui n'a rien à voir avec des problèmes religieux. Mais pour en revenir à cette question, donc Mordillat et Prieur mettent en évidence ou soulignent cette question du véritable Israël. Ils s'appuient en particulier sur Justin, qui aurait considéré que l'Église serait le véritable Israël et que donc, d'une certaine façon, l'ancien, enfin celui qui n'est pas le vrai Israël, donc le peuple juif, n'aurait quoi ? Plus de raison d'exister ? Que la cohabitation des identités, l'identité juive et l'identité chrétienne, ne devrait plus, ne pourrait plus se prolonger ? Donc la question est de savoir, c'est est-ce qu'il y a, comme Mordillat et Prieur le disent, un anti-judaïsme structurel, je les cite, dans la littérature néo-testamentaire, d'une part, et deuxièmement, cette idée théologique du vrai Israël, du véritable Israël, n'est-il pas de nature à déprécier, dévaloriser, rejeter, d'une certaine façon, l'ancien Israël, le peuple juif ?
Alors, ce sont des questions qui sont extrêmement graves parce qu'elles touchent à l'identité même du christianisme, à ses fondements, à ses racines, et à ses racines juives précisément. Et puis, elles touchent au rapport entre juifs et chrétiens, dont nous savons combien ils ont pu être dans l'histoire compliqués. Donc, je crois que là, il faut faire très attention à déjà ne pas raconter n'importe quoi, comme ils le font, hélas, sur le Nouveau Testament. Il y a dans le Nouveau Testament suffisamment d'affirmations qui montrent à quel point le christianisme, si tant est qu'on puisse dès le Nouveau Testament parler de christianisme, puisque le mot n'est pas dans le Nouveau Testament, le mot chrétien, oui, et encore pas souvent, le mot christianisme n'est pas dans le Nouveau Testament. Disons, il y a dans le Nouveau Testament une affirmation suffisante, suffisamment forte et définitive, c'est l'écriture fondatrice pour le christianisme, que la tradition chrétienne, le message apporté par Jésus et répercuté par ses disciples, se fonde bien évidemment sur l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Donc, cette affirmation originelle est très claire et il y a dans le Nouveau Testament de quoi montrer de façon tout à fait claire et définitive que l'antisémitisme chrétien, puisqu'on entend cette expression, c'est une contradiction dans les termes. Alors, je veux bien que ça ait existé, qu'il y ait de l'antisémitisme parmi les chrétiens et qu'il y ait de lourdes responsabilités chrétiennes en ce domaine, ça c'est l'évidence historique, mais il ne faut pas imaginer que ce soit là un développement naturel de la doctrine chrétienne, c'est en fait une trahison de la doctrine chrétienne. Maintenant, quelques mots justement sur Justin de Rome. Justin de Rome a écrit, vers le milieu du IIe siècle de l'ère chrétienne, un dialogue avec un maître juif qui s'appelle Tryphon. Dialogue fictif, dialogue réel, bon, nous ne le savons pas, c'est très difficile de trancher. Ce qui est important, c'est de voir que Justin a pour but de fonder l'identité chrétienne, de légitimer le christianisme. Alors, c'est vrai qu'il parle de nouvel Israël, mais il parle aussi, à propos des chrétiens, d'un autre Israël, ce qui veut dire qu'il y en a deux et qu'il y en a deux côte à côte. Et puis, je vais donner un exemple de la manière dont Mordia et Prieur ont lu ou prétendu lire Justin de Rome. Ils expliquent dans leur émission que Justin veut effacer les Juifs de l'histoire, ce qui est une absurdité, et ils disent dans leur livre que le fait que Tryphon ne se convertisse pas au christianisme est l'illustration du cliché chrétien du juif à la tête dure, du juif qui ne peut rien comprendre. Or, il faut et il suffit de relire la fin du dialogue avec Tryphon le juif de Justin de Rome pour bien voir que ce dialogue se termine comme il a commencé, c'est-à-dire fraternellement. Justin doit partir, il prend la mer, les différents interlocuteurs expriment le plaisir qu'ils ont eu à parler ensemble et au moment où Justin prend la mer, il dit à ce maître juif et à ses disciples avec qui il a parlé, qu'il priera pour qu'il puisse arriver à connaître le Christ et les juifs en face de lui prient pour son voyage puisque Justin s'embarque pour un voyage. Autrement dit, nous avons un texte des années 150 à peu près qui se termine en montrant un maître juif et ses disciples qui prient pour un chrétien et un chrétien qui prie pour les juifs avec qui il vient de parler. Autrement dit, nous sommes dans le domaine du dialogue. Alors c'est là qu'il ne faudrait pas caricaturer la position de Justin comme cela a été fait. Et puis, il y a un autre problème qui est absolument incontournable, c'est celui de l'attitude de Marcion. Nous avons en Marcion, à peu près à la même époque que Justin de Rome, un chrétien qui veut couper de manière absolument résolue, de manière, j'irais, chirurgicale, les racines du christianisme. Ce Marcion a une idée, c'est de rejeter l'Ancien Testament comme étant l'expression d'un autre Dieu que le Dieu chrétien, pas nécessairement d'un Dieu mauvais, mais d'un Dieu qui est inférieur au Dieu de Jésus. Et puis, il rejette trois évangiles sur quatre comme trop juif, donc il garde juste l'évangile de Luc et puis il garde les épîtres pauliniennes. Autrement dit, il largue l'Ancien Testament et il fait un Nouveau Testament complètement redécoupé. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est que Marcion a été excommunié et qu'il a fini sa vie en dehors de l'Église, autrement dit qu'il a été rejeté par le courant très majoritaire du christianisme. Or, Mordia et Prieur prétendent nous faire croire, et je trouve que cela va très loin, ils prétendent nous faire croire que Marcion aurait détenu la grande solution. Que Marcion, en coupant le christianisme du judaïsme, aurait en quelque sorte libéré le christianisme de ses tendances à l'anti-judaïsme, parce que ça aurait fait deux religions différentes. Et c'est là qu'il y a une très grave erreur. La première erreur, c'est d'essayer d'imaginer ce qui se serait passé si Marcion avait gagné. Parce qu'en soi, si vous voulez, c'est absurde, parce qu'on ne sait pas du tout. On ne peut pas refaire l'histoire, les paramètres sont beaucoup trop nombreux. Ensuite, la mutilation intellectuelle que Marcion imposait au christianisme, d'une certaine façon, le mettait dans une impasse, lui rendait la survie impossible, à moins d'être une religion complètement absurde. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que précisément, la volonté de couper Jésus de ses racines juives, la volonté de voir deux dieux différents, c'est quelque chose qui précisément se retrouve dans le monde moderne, qui se retrouve chez Hegel, qui se retrouve chez un certain nombre d'auteurs du XIXe siècle qui sont loin d'être compréhensifs envers le judaïsme, et que ce même Marcion a intéressé un certain nombre d'auteurs allemands dont se sont nourris les nazis. Autrement dit, vouloir séparer le christianisme du judaïsme comme l'a fait Marcion, ce n'est pas le remède à l'antisémitisme ou à l'anti-judaïsme chrétien, c'est même au contraire la possibilité théorique prétendue de créer un antisémitisme qui, pour le coup, n'aurait plus aucune limite et n'aurait plus son antidote dans ses racines juives du christianisme. Parce que, inversement, ce qui est évident, c'est que tous les chrétiens qui, au cours de l'histoire, ont défendu les juifs, c'était des chrétiens qui avaient le sens des racines juives du christianisme. Je pense à saint Augustin. Saint Augustin nous dit bien que Jésus est juif, que Marie est juive, que les apôtres sont juifs, et il le dit à son peuple chrétien. Il dit « Faites attention à ce que vous dites des juifs, puisque ceux qui ont fondé notre tradition sont des juifs. » Et il dit même quelque chose de très fort, il dit « Jésus est fils de la synagogue ». Il ne dit même pas « Jésus est fils de l'ancien Israël ou fils de l'Ancien Testament », il dit « Il est fils de la synagogue ». Autrement dit, il met en rapport Jésus avec le judaïsme de son propre temps. Je voudrais donc dire là que sur un problème aussi douloureux que celui des rapports entre les juifs et les chrétiens, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont lancé des idées qui ne tiennent pas un instant, qui ne résistent pas un instant à la critique.
Alors ce qu'il faut, et c'est ce que vous dites, et merci de tous ces éclairages, c'est qu'effectivement Marcion donc, a été rejeté, donc il y a eu une vraie crise de l'Église à ce moment-là pour savoir si on était dans une nouvelle religion suffisamment neuve pour effectivement se séparer, se détacher de l'ancienne, d'une part, et deuxièmement, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, cette liaison difficile, cette fraternité problématique, qui a été maintenue et voulue dans l'Église comme un élément ô combien essentiel et ô combien fidèle à la pensée de Jésus, donc que cela a, d'une certaine façon, d'une façon certaine, dites-vous, préservé la haine, enfin, la haine que certains pouvaient porter aux Juifs, justement parce qu'il y avait cet amour nécessaire, cet amour fraternel, cette filiation indispensable entre les Juifs d'une part et les chrétiens d'autre part.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit de se situer au besoin en relation de concurrence avec les Juifs, mais pas en relation d'hostilité systématique. Et surtout, il ne s'agit pas d'effacer le judaïsme, parce que ce dont il s'agit au XXe siècle, avec l'antisémitisme nazi, c'est de nier au judaïsme toute possibilité d'exister, c'est de l'effacer complètement de l'histoire. Et cela, c'est une tendance déjà du XIXe siècle. Je renverrai un instant au très beau livre de Philippe Muret, « Le XIXe siècle à travers les âges ». Tout ce que Philippe Muret a repéré comme texte à la fois anti-chrétien et anti-juif au XIXe siècle, tout ce qu'il a trouvé d'antisémitisme au XIXe siècle chez des auteurs qui ne sont pas chrétiens et même qui sont hostiles au christianisme, c'est une volonté, d'une certaine manière, de faire disparaître le judaïsme, que ce soit par la conversion, par l'assimilation, mais de toute façon, ce que l'on rejette, c'est une certaine identité juive. Alors que ce qui me frappe dans la tradition chrétienne, c'est la capacité à ne pas cacher les racines juives du christianisme, d'essayer de vivre avec et de considérer que les juifs sont en face, qui sont en face d'une manière pérenne, et que, alors là c'est quelque chose d'extrêmement important, il y a un salut pour ce peuple. puisque ce peuple a son histoire et qu'il a, à la limite, son propre chemin.
Enfin, pour ce peuple et par ce peuple.
Alors,
le salut par
pour
les
ce
Juifs.
Peuple et par ce peuple, puisque, évidemment, on a la phrase de Jésus à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, le salut vient des Juifs, et aucun des pères de l'Église n'a oublié cette phrase. Mais ce qui me paraît, justement, ici très, très important, c'est de voir que, non seulement il y a vis-à-vis, on accepte le vis-à-vis, mais il y a, par exemple, dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin, quand même dans l'un des ouvrages majeurs de Saint-Augustin, un ouvrage qui a énormément influencé l'Occident, il y a toute une théorie du salut final des Juifs qui sont conduits au Christ par le prophète Élie revenu s'occuper d'eux. Et je trouve cela extrêmement frappant parce que Augustin montre les Juifs allant collectivement vers leur salut, conduits par l'un des prophètes de l'Ancien Testament et non point par une personnalité chrétienne. Il me semble qu'il y a un énorme respect, un profond respect de la tradition d'Israël dans ce très beau passage de la Cité de Dieu qu'Augustin consacre au salut des Juifs. Et d'une autre manière, si vous voulez, prenons très rapidement deux images. Si je me souviens bien, dans les années 1890, dans le journal de Drumont, La Libre Parole, avait été publié un dessin qui montrait un Jésus sur une sorte de destrier, de chevalier du Moyen-Âge, et le cheval sous Jésus piétinait Moïse. Or, cette vision-là d'un Nouveau Testament qui piétine l'Ancien, c'est une vision qui est aberrante sur le plan chrétien. Or, autre image, c'est une image bien connue, c'est l'entrée des cathédrales gothiques. Eh bien, à l'entrée des cathédrales gothiques, il y a l'église d'un côté et la synagogue de l'autre. Alors, je sais bien, la synagogue a les yeux bandés et elle a une lance brisée. Seulement, elle est là, elle est belle, comme l'Église, elle est de même taille et elle est mise sur le même plan, à la même hauteur. Autrement dit, il y a vis-à-vis, et on parle beaucoup aujourd'hui de théologie en vis-à-vis. Je dis simplement que l'idée de détruire les racines juives du christianisme ou de détruire le judaïsme, ce n'est absolument pas une idée de la tradition chrétienne. C'est une aberration du XXe siècle. Et en soi, c'est une horreur unique dans l'histoire qu'il faut étudier comme telle. Et il ne faut pas chercher ses origines chez les pères de l'Église.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans la tradition chrétienne, dans la première tradition chrétienne que vous connaissez bien, l'idée suivant laquelle le retour du Christ ne pourra se faire qu'à partir du moment où les Juifs auront été convertis, qui est un effet de conversion nécessaire, indispensable pour parvenir à ce retour tant attendu que les premiers disciples du Christ imaginaient voir, donc dans horizon de 20 ans ou 30 ans, bon, et qui finalement se fait toujours attendre. Donc est-ce qu'il n'y a pas un effet là de conversion nécessaire pour arriver à la fin des temps ?
Il y a différentes doctrines sur la fin des temps et sur ce qui doit préparer la fin des temps. Ce qui pose un problème, si vous voulez, quand on dit conversion nécessaire, c'est parce qu'on risque d'imaginer conversion forcée. Or, la conversion forcée est un phénomène qui n'est pas majoritaire dans l'histoire du christianisme et surtout pas dans l'histoire du christianisme antique. Il y a, dans les textes de l'Antiquité, je dirais, suffisamment de respect des Juifs pour refuser de façon très nette, on le voit chez saint Augustin, on le voit aussi chez le pape Grégoire le Grand, pour refuser la conversion forcée. Alors je crois qu'il y a une vision qui est beaucoup plus complexe des choses et il y a la capacité à se poser face au judaïsme sans nécessairement un éternel complexe d'infériorité qui conduirait à la haine. L'idée qu'il y aurait une haine structurelle, un ulcère, comme ose dire Gérard Mordillat, dans le christianisme, c'est une idée qui me paraît doublement fausse. D'abord parce qu'elle personnifie le christianisme et que bon, la tradition chrétienne est plurielle et elle comporte des tendances différentes, des courants différents. Et puis ensuite, parce que il est faux de voir chez les chrétiens une sorte d'obsession de leur rapport aux Juifs. Il y a besoin de se positionner, mais enfin, c'est pas non plus une obsession de, je dirais, la conscience chrétienne.
Très bien, nous allons observer une page musicale et nous reprenons notre entretien. Thank you. Nous reprenons notre entretien avec Jean-Marie Salamito autour de son livre « Les chevaliers de l'Apocalypse ». Et je voudrais aborder maintenant un des thèmes aussi très importants que vous mettez en évidence autour du moment Constantin. Voilà, donc Prieur et Mordilla insistent beaucoup là-dessus et considèrent effectivement que à ce moment-là, donc au moment de la conversion de Constantin, il y a une confusion qui s'instaure entre le politique et le religieux, une alliance complète entre l'Église et l'Empire, au point que, disent-ils, le parti chrétien devient religieusement totalitaire. Je les cite. Donc, peut-on considérer que se joue à ce moment-là une trahison, d'une certaine façon, du christianisme originaire, d'une part, et que, deuxièmement, avec ce moment Constantin, nous entrons dans des siècles de confusion complète entre le politique d'une part et le religieux d'autre part.
Alors là, il y a encore une fois, de la part de Gérard Mordilla et de Jérôme Prieur, une thèse massive, si vous voulez, une thèse très, très lourde qui s'abat, pour ainsi dire, sur le lecteur ou sur le téléspectateur. Alors faisons bien attention, n'exagérons pas ce que représente Constantin. Constantin, à partir de 312-313, puis ensuite à partir de 324 quand il devient seul empereur, et cela jusqu'à sa mort en l'an 337, Constantin favorise le christianisme, se disant lui-même chrétien, même s'il est vrai qu'il ne se fait baptiser, comme chacun sait, que sur son lit de mort. Alors le fait que Constantin reconnaissent le christianisme comme une religion autorisée, ça ne change pas nécessairement le christianisme, pas plus que le fait d'être une religion autorisée dans l'Empire romain ne changeait le judaïsme au fond. Il y a là, si vous voulez, des conditions extérieures qui sont les conditions juridiques dans lesquelles peut vivre le christianisme. Ça ne change pas la nature propre, la vie interne des communautés chrétiennes. Ça ne change pas du tout au tout le christianisme. Maintenant, n'exagérons pas non plus les rapports entre le politique et le religieux. Les rapports entre le politique et le religieux en ce qui concerne Constantin et les chrétiens, au fond, ne sont pas complètement différents des rapports habituels d'un empereur romain avec la religion dans son empire. Je m'explique. Constantin, même s'il se déclare chrétien, même s'il proclame que les païens sont dans l'erreur, Constantin ne persécute pas les païens. Il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il y a dans son empire une très grande, une écrasante majorité de païens et il ne porte pas atteinte à la sensibilité de ces polythéistes dans son empire, de même qu'il ne change rien à la liberté de culte des juifs. Et Constantin reste, comme tout le monde le sait, le grand pontife, donc il reste chargé du sacerdoce le plus prestigieux dans la religion romaine, sacerdoce qui était traditionnel chez les empereurs depuis Auguste. Donc il y a là, si vous voulez, pluralisme religieux dans un empire gouverné par un empereur qui effectivement s'intéresse de près aux affaires des chrétiens, mais qui ne prétend pas imposer le christianisme à ses sujets. Alors, il y a évidemment des interventions de Constantin dans la vie religieuse. Mais en quoi consistent ces interventions ? Eh bien, essentiellement, elles consistent à vouloir la réconciliation quand il y a des chrétiens qui se dressent les uns contre les autres, et donc elle relève du souci qu'a tout pouvoir d'éviter les atteintes à l'ordre public et de souhaiter un État, une population dans la paix et dans la paix civile, bien évidemment. Autrement dit, voir qu'il y a confusion du politique et du religieux, je crois que c'est faire plutôt la confusion soi-même et que la distinction est assez claire, comme elle était assez claire dans la tradition romaine. Évidemment, il y a des rapports entre le politique et le religieux, mais déjà, au temps de Cicéron, on savait distinguer le jus sacrum, le droit religieux, et le jus civil, et le droit civil.
Mais que dirait-on aujourd'hui, pour faire un peu d'anachronisme, excusez-moi, mais si Barack Obama, par exemple, intervenait dans un concile de l'Église ? Or, il se trouve effectivement que Constantin intervient au moment des conciles. Alors, est-ce que cette intervention, cette, euh, cette présence intervenante au moment des conciles n'est pas le symptôme quand même de cette confusion entre le politique et le religieux.
Non, ce n'est pas nécessairement une confusion entre le politique et le religieux, parce que les différences existent toujours, bien évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'il y a dialogue, si vous voulez. Le concile de Nicée, en 325, au printemps 325, est une réunion pour que les chrétiens, essentiellement de l'Orient, se mettent d'accord sur une querelle théologique, de théologie trinitaire, une querelle sur les rapports du Père et du Fils dans la Trinité, querelle qui dure grosso modo depuis les années 310. Donc une querelle qui a à peu près une quinzaine d'années et qui empoisonne la vie d'un certain nombre de chrétiens en Orient parce que des évêques se dressent les uns contre les autres. Or, il n'est pas, si vous voulez, complètement absurde que l'empereur veuille dire aux chrétiens « mettez-vous d'accord et puis voilà, je vous donne les moyens de vous réunir, je fais profiter les évêques de la possibilité de voyager avec les moyens de transport des fonctionnaires et ainsi je favorise la logistique d'une réunion. » Et puis qu'a fait Constantin ? Il a ajouté aux décisions conciliaires un certain nombre de pressions exercées sur certains évêques pour les amener à accepter les décisions du concile. Alors je dirais qu'en soi ça n'est pas une confusion du politique et du religieux, je dirais que c'est plutôt un dialogue entre le politique et le religieux. Il y a conflit entre des gens d'une religion, l'Empire dit, enfin l'autorité politique dit, eh bien messieurs, mettez-vous d'accord, réunissez-vous, je vous donne les moyens logistiques de vous réunir. Après tout, imaginons que Benoît XVI, en septembre dernier, ait dû dire une messe sur l'esplanade des Invalides sans qu'il y ait la moindre participation des forces de l'ordre au règlement de la circulation dans Paris ou qu'il n'y ait absolument aucun contrôle de l'État. On trouverait ça irresponsable de la part de l'État. Le fait que la circulation soit réglée quand il y a une manifestation n'est pas une confusion du politique et du religieux.
Sauf que là, on parle d'un concile, le concile de Nicée, qui est quand même définit des articles de foi, enfin des éléments ô combien essentiels et pas simplement de l'organisation policière d'une réunion à l'extérieur.
Non, mais c'est quand même cela dans le concile, si vous voulez. C'est quand même cela parce que Constantin est là comme un co-organisateur, il est là comme quelqu'un qui apporte de la logistique, c'est pas lui qui fait les décisions du concile non plus. Lui, il ne connaît rien à la théologie. D'ailleurs, il a dit maintes fois que la question soulevée par les évêques, la question théologique, ne l'intéressait pas et lui paraissait une affaire tout de même d'un intérêt très, très limité. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que la possibilité qui a été donnée aux évêques de se réunir est offerte par l'État, mais à part cela, les évêques sont quand même entre eux. Ils discutent entre eux à partir de traditions théologiques qu'ils ont élaborées depuis longtemps, à partir d'un héritage intellectuel dans lequel Constantin n'a rien à voir, et ils prennent bien leurs décisions à ce moment-là. Constantin ne fait que les appuyer. C'est pour ça qu'il faut éviter d'imaginer les évêques de l'époque comme des pantins ou des marionnettes dont Constantin tiendrait les fils, et Constantin n'est pas plus la marionnette des évêques. Mmh. Il y a dialogue entre deux pouvoirs, chacun ayant son domaine de compétence, mais les deux se rejoignant pour une volonté d'unité et de paix civile. En soi, ça ne signifie pas confusion du politique et du religieux. Si vous voulez, la position de Mordillat et Prieur revient à dire qu'il y a confusion à partir du moment où il y a le moindre rapport, la moindre relation, le moindre dialogue, le moindre échange entre autorité politique et autorité religieuse. Ce qui est un petit peu curieux.
Et alors, beaucoup considèrent quand même qu'avec Constantin ou autour de Constantin, il y a un tournant qui va se prolonger comme ça pendant des siècles. Le principe du droit divin, voilà. Est-ce que vous considérez que à partir de ce moment-là, l'Église n'est plus vraiment l'Église, c'est-à-dire au sens où elle change de nature, ou est-ce que vous considérez que on est toujours dans ce dialogue dont vous parlez entre le politique d'une part et le religieux d'autre part?
Alors avec Constantin, ça me paraît très 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 clair. Bon, par la suite, il y a d'autres épisodes qui viennent compliquer les choses. Mais alors, le moment constantinien est important pour une raison extrêmement simple, c'est que après une période de persécution qui a commencé en 303, qui est la plus dure persécution subie par les chrétiens depuis le début, après une période donc de très dure persécution, il y a l'égalisation du christianisme, ce qui signifie la fin des persécutions, et ce qui veut dire que les chrétiens ne seront plus menacés dans leurs biens ou dans leurs personnes parce qu'ils sont chrétiens. En soi, ça c'est un immense tournant parce que c'est un très grand soulagement pour des milliers et des milliers de chrétiens à travers l'Empire et tout spécialement dans la partie orientale de l'Empire. Alors c'est cela le tournant constantinien, c'est que à partir de ce moment-là, il n'est plus dangereux d'être chrétien, on ne risque pas sa peau en se convertissant au christianisme. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est chrétien, ça ne veut pas dire que les chrétiens sont au pouvoir, ça veut dire qu'ils ont la paix. Et précisément, l'expression qui est employée par nos sources, c'est l'expression de paix de l'Église. On est dans la paix de l'Église, on n'est plus persécuté. Alors maintenant, la question de savoir s'il y a continuité pour l'Église, c'est une question, je dirais, assez difficile, parce que pour le coup, c'est une question d'interprétation. Mais essayons de nous placer sur un certain nombre de faits très simples. Est-ce que la vie chrétienne, la vie interne des communautés a changé du tout au tout à partir de Constantin ? Bon, les chrétiens continuent de baptiser, ils continuent de préparer les candidats au baptême. Le catéchuménat, ça existe toujours, ça se perfectionne. Le baptême, c'est toujours la manière d'entrer dans l'Église. Que font les chrétiens ? Ils célèbrent l'Eucharistie. Ils lisent la Bible, ils se réclament de Jésus, ils ont sans cesse à la bouche ou dans leur livre la référence à Jésus. Si vous voulez, pour ce qui est de la vie propre du christianisme, voir un changement de nature me paraît excessif. Ça ne veut pas dire que rien n'a changé, mais il ne faudrait pas confondre le changement de statut avec le changement de nature. C'est pas parce que la TVA sur la restauration a changé que la cuisine n'est plus la même. Les conditions dans lesquelles sont les chrétiens du point de vue légal ont changé, la pratique chrétienne ne change pas du tout au tout. Alors bien sûr, il va y avoir des conséquences parce que ça permet au christianisme de s'installer. Donc ça va lui permettre aussi de s'enrichir, ça va permettre un certain nombre de compromissions aussi avec le pouvoir, soit avec le pouvoir social, avec les élites sociales des différentes cités, soit avec le pouvoir politique. Mais c'est pas non plus entièrement un changement de nature, d'autant que parallèlement, il y a le mouvement monastique, le mouvement de fuite au désert, de retrait du monde, qui contribue à relancer l'imitation de Jésus et qui est d'une certaine façon une manière de revenir aux origines chrétiennes. Donc il y a toujours un souci d'authenticité. Et puis, là encore, soyons suffisamment réalistes pour voir la complexité, pour voir la pluralité. Il y a de faux chrétiens, et notre source chrétienne nous le dit, il y a des chrétiens opportunistes, et puis il y a des chercheurs de perfection. Et il y a encore moyen d'être martyr dans cet empire chrétien. Après tout, en 407, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, meurt d'épuisement sur le chemin de son exil, envoyé en exil par un empereur chrétien, parce que son franc-parler déplaisait à l'impératrice.
Pour conclure, il me semble que, au travers de toute l'entreprise de Prieur et Mordillat, il y a l'idée suivant laquelle il y aurait eu entre le Christ et les premiers chrétiens une forme de disjonction, enfin d'erreur d'aiguillage, enfin de tromperie sur la marchandise, une rupture qui laisserait à penser que il y aurait d'une part le message d'amour et d'autre part il y aurait eu ou il y aurait l'Église qui elle serait plus oppressante, plus castratrice, plus politique que ce que Jésus disait dans son premier message. Et donc, Mordillat et Prieur disent « Ce qui s'est mis en place au nom de Jésus-Christ, l'Église et le christianisme, n'est pas seulement différent de ce qu'il pouvait, donc Jésus, espérer, prédire, réclamer au ciel, mais tout à fait autre. » Donc, que dites-vous quant à cette tromperie sur la marchandise, le changement de nature de l'Église, considérant que vous semblez plutôt insister sur une absence de discontinuité ?
Alors, l'absence de discontinuité est de toute façon un fait. C'est-à-dire que ces gens qui proclament Jésus ressuscité et qui se répandent parmi le peuple juif et puis qui vont au-delà pour porter le message de Jésus, ces gens-là sont les mêmes que ceux qui avaient vécu avec Jésus sous la forme d'une sorte d'école rabbinique. Donc à partir du moment où les gens sont les mêmes, je ne vois pas comment l'historien peut dire que ce n'est plus la même chose, il y a au moins une continuité factuelle. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point qui me paraît encore plus important, c'est que là, cette prétendue trahison ou tromperie ou discontinuité, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur n'ont absolument pas les moyens de la diagnostiquer. Je m'explique. Comment connaissons-nous Jésus ? Nous connaissons Jésus par la mise par écrit des traditions orales que véhiculaient les communautés chrétiennes sur ce même Jésus. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu d'église, s'il n'y avait pas eu de communauté portant le message de Jésus, il n'y aurait pas eu d'évangile, il n'y aurait pas eu d'écriture chrétienne et nous ne saurions pas à l'heure actuelle qui était Jésus. Ce serait pour nous un inconnu de l'histoire. Seuls les spécialistes très pointus d'histoire du judaïsme le connaîtraient. Et encore. Donc là, il y a au contraire, je dirais, de leur part une erreur assez considérable qui consiste à s'imaginer que eux, à partir de 2-3 bribes prises dans le Nouveau Testament, connaissent et comprennent mieux Jésus que ceux qui ont été les témoins oculaires de Jésus et qui ont transmis leur témoignage et qui ont permis ainsi le début de la tradition ecclésiale. Et c'est là qu'il y a une faute de méthode ou disons de perspective. C'est de dire, voilà, il y a une église qui est différente de l'évangile, mais l'évangile est un produit de la communauté chrétienne. Donc, ou bien ces gens-là, les disciples de Jésus, se sont trompés ou nous ont trompés. Dans ce cas-là, ils l'ont fait dès le début, mais nous ne pouvons même pas le dire, puisque tout ce que nous savons sur Jésus, c'est par eux. Donc, ou bien nous refusons leur témoignage en bloc, mais après tout, c'est au pifomètre, puisque nous n'avons pas de véritable argument, ou bien nous analysons de bonne foi leur témoignage et nous arrivons à une image de Jésus qui est quand même plus riche que celle que donnent Mordillat et Prieur. Donc, il faut faire très attention. Dans cette dissociation entre écriture et tradition, ou entre Jésus et l'Église, on oublie que Jésus a autour de lui une communauté, que c'est par cette communauté qu'il est connu, et que donc il est extrêmement difficile de séparer le témoignage des premières communautés chrétiennes d'une sorte de vérité qu'on prétendrait avoir sur Jésus, alors que ce qu'on sait sur Jésus, on le sait par les premières communautés chrétiennes.
Donc vous dites qu'il n'y a pas historiquement de séparation entre Jésus et l'Église, que Jésus et l'Église, d'une certaine façon, se produisent l'un l'autre.
Disons qu'il y a une continuité factuelle en ce sens qu'il y a des disciples de Jésus et que de génération en génération, il y a des gens qui se passent le relais. Les premiers chrétiens, les chrétiens des premiers siècles, ont des listes épiscopales, ils savent qui a succédé à qui, ils sont capables de savoir qui a porté le message. Alors, bien évidemment, il y a comme cela des pluralités qui ont pu disparaître à la longue, il y a une majorité, un courant majoritaire du christianisme qui a pu marginaliser certains courants. Hein, bien évidemment, il ne faut pas parler de continuité de manière trop globale. Mais disons, évitons ce qui est global et ne parlons ni de discontinuité ni de continuité absolue. Parlons, si vous voulez, d'une continuité factuelle. Il y a des disciples de Jésus qui ont parlé de lui. On peut les croire, on peut ne pas les croire, mais s'inventer un Jésus qui n'a rien à voir avec celui dont les témoins nous parlent en disant « les témoins nous ont trompés », c'est assez curieux.
Je renvoie donc nos auditeurs à ce livre « Les chevaliers de l'Apocalypse » et je voudrais terminer par un article qui est paru dans Le Monde le 27 mars 2009 et qui était signé par Maurice Sartre, historien donc par ailleurs, et qui dit « Le livre de Salemito se révèle doublement indispensable ». D'abord parce qu'il sort le spectateur de l'état quasiment hypnotique où le plongent les séries de Mordillat et Prieur. Ensuite, parce qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'histoire reste une science exigeante qui obéit à des règles méthodologiques strictes dont nul ne peut s'affranchir. Certes, l'histoire n'appartient pas aux historiens, mais sans eux et leur expertise, l'analyse risque de se réduire à l'expression d'une opinion sans fondement scientifique. Dans ces pages rigoureuses et denses, Salemito exerce au mieux son double devoir d'universitaire, celui de chercheur et d'enseignant. Monsieur Jean-Marie Salemito, merci beaucoup de cet entretien.
Merci à vous.
Merci.